I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans On The Verge, un podcast qui parle de sexualité masculine. Pour ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter le témoignage de Axel, connu sous le pseudonyme Axel Abyss. Cet expatrié au Japon est vidéaste, performeur et producteur de porno gay, ou encore, comme il aime dire, pornographeur. Axel a des pratiques de niche et est connu dans le milieu pour ses aptitudes physiques et ses performances extraordinaires. De ses premiers émois vécus très tôt lors de visionnages de porno soft, en passant par son adolescence difficile, son coming out à 16 ans ou encore ses premières histoires d'amour, Axel va vous parler de la découverte d'une pratique qui sera une révélation totale pour lui. Il vous livre avec sagesse sa vision de la sexualité décomplexée et de l'apprentissage de son propre plaisir et de l'exploration de son corps. C'est une discussion incroyable que j'ai eue avec cet homme, aligné avec son désir et sa sexualité. Merci encore à Thomas pour la mise en relation. Et attention, certains propos et explications des pratiques de Axel pourraient peut-être heurter les plus sensibles d'entre vous. Bonne écoute. Pour cet épisode, j'ai le grand plaisir, alors de ne pas accueillir devant moi, mais de lui parler parce que nous sommes à des milliers de kilomètres, puisqu'il est à Tokyo. Je parle avec Axel Abyss, qui est... Alors, comment on peut te présenter, Axel ?
Alors, réalisateur, performeur, je crois que... pornographeur.
Pornographeur. Tu as 33 ans, tu es français et tu vis depuis une petite dizaine d'années au Japon maintenant. Et tu as ce métier donc de pornographeur. Avant qu'on comprenne pourquoi tu en es là, quel est le chemin qui t'a amené dans ces, on va dire, cet univers qui est assez atypique et de niche, surtout dans les performances que tu proposes, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Axel, quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité ?
Alors, mon tout premier souvenir, c'est assez difficile à dire. Je crois que il y en a plusieurs qui se mélangent, en fait, et j'ai du mal à mettre des dates dessus. Il y a beaucoup de porno. Ça a commencé très, très tôt. Il y avait du porno volontairement. Non, pas tout de suite. Disons que j'ai trouvé du porno à la maison quand j'étais petit. C'était pas vraiment caché. C'était pas à la portée de tout le monde non plus, mais voilà, c'était pas non un gros tabou à la maison. Donc il y avait Canal Plus à la maison, il y avait les cassettes vidéo du film du samedi soir enregistré que je retrouvais tous les dimanches. Donc c'est vite devenu une habitude en fait de regarder du porno, bon, discrètement hein, quand même. Mais et puis après il y avait les magazines de mon père.
Tu arrives à peu près à estimer quel âge tu avais ?
Je pense que la première fois, je devais avoir dans les 8 ans.
Assez jeune, mais pas encore au collège.
Ah non, du tout. C'est vraiment très, très jeune.
D'accord.
J'avais pas d'érection, j'avais pas ce genre de choses. Donc, c'était de la curiosité, en fait. C'était quelque chose que je comprenais pas au départ. Donc,
Et est-ce que tu te souviens quel sentiment d'enfant tu as pu avoir devant ? C'est une forme de fascination ? Il y a une pulsion ? Est-ce que tu comprends ce que tu vois à ce moment-là ?
Personnellement, j'ai du mal à me souvenir exactement, mais je pense que c'était plus une fascination. Il n'y a jamais eu de dégoût.
D'accord.
Il y a eu du dégoût plus tard sur des pornos. Une fois que j'ai eu Internet à la maison, j'ai exploré beaucoup plus, j'ai cherché ailleurs. Et là, je suis tombé sur des trucs beaucoup plus trash qui là, ont pu m'évoquer du dégoût, qui se sera transformé plus tard en fascination encore. Mais ouais, je crois que le porno a eu forcément une part essentielle dans le processus. Après, il y a d'autres choses. J'ai des images qui me reviennent, beaucoup plus jeunes. C'était pas sexuel, mais c'est des choses qui me marquent maintenant. C'est les dessins animés. Les dessins animés, t'as des personnages, notamment comme Astro Boy, qui avait une fascination pour Astro Boy quand j'étais petit, mais,
oui.
Mais quand j'y repense, en fait, j'ai un fétichisme pour les looks, en fait. Les looks de super-héros, les looks, les bottes. L'attirail en fait de tous ces personnages là et du coup ça a commencé très très tôt et c'était pas sexuel à l'époque, mais aujourd'hui je me dis que quand même ça a eu
il y avait quelque chose
et ça a pas mal influencé mon imaginaire sexuelle sur le plus tard. Et aujourd'hui, maintenant, j'explore pas mal de fétichisme, donc latex, cuir, ce genre de choses, et ça me ramène à ça, quoi, au déguisement. Donc évidemment, c'est pas les mêmes, c'est pas le même objectif, c'est pas les mêmes sentiments, mais il y a une satisfaction dans l'idée de se créer un personnage comme ça qui est peut-être assez similaire, qui, je pense, est né là, à ce moment-là.
Je comprends. Est-ce qu'on parlait de sexualité librement chez toi ?
Je m'en souviens pas. En fait, je pense que j'ai une famille très ouverte, ils sont très tolérants. J'ai fait mon coming out à 16 ans. Ouais, c'est. Je pense qu'on n'a jamais eu de problème, c'était pas un tabou, mais je me souviens pas de conversation sur le sujet. Après, il y a eu des conversations. Si, sur les protections, la capote, tout ça, quand t'es ado, quoi. Mais je pense comme dans la plupart des familles.
D'accord. Tu n'as pas eu l'impression de faire quelque chose de trop transgressif dans ton parcours après professionnel vis-à-vis de ta famille ?
Alors, ma famille est au courant. Ma famille sait que je fais du porno aujourd'hui. On n'en parle pas, on ne s'étale pas sur le sujet. Mais non, ça ne m'a jamais vraiment posé problème. Je pense que c'est plus compliqué, dans mon cas, c'est plus compliqué par rapport à la société dans laquelle on vit, le milieu professionnel, les gens qu'on fréquente au quotidien par défaut, notamment pour le boulot, ouais. Où là, t'as l'impression que tu dois cacher quelque chose, mais vis-à-vis de ma famille, pas tant que ça.
D'accord, donc tu es un petit garçon qui est curieux, qui trouve des images pornographiques qui vont, au début en tout cas, le façonner, le fasciner. Et comment tu rentres dans la puberté ? Donc tu l'as dit, tu as fait ton coming out homosexuel à 16 ans. Comment tu rentres dans ta puberté, ce corps qui change, les premières interactions avec... alors, est-ce que tu savais déjà que tu aimais les garçons ou est-ce que tu as eu... Parce que on est dans une société hétéronormée, tu as eu des interactions avec des jeunes filles. Comment ça se passe ?
Alors, j'ai été amoureux de plusieurs filles, de gamin jusqu'à, je dirais, 14 ans à peu près. Il y a eu plusieurs filles dont j'étais vraiment très, très amoureux. Mais c'était très... c'était pas physique du tout. Et pour ce qui est du physique, ça a toujours été les mecs. Aussi loin que je me souvienne, vraiment, même à 10 ans, etc., j'ai toujours su que j'étais attiré par les garçons, quoi. L'adolescence a été assez atroce parce que je vivais dans un coin vraiment paumé où être homo, c'est... J'en connaissais pas d'autres, d'ailleurs.
Oui, il y en avait sûrement plein d'autres, mais comme bien toi, sûr, qui, bien ne sûr. Se... qui ne s'affichaient pas à ce moment-là.
C'est ça. Et du coup, ça a été très dur à vivre pour moi. Ma toute première fois, ça a été à 16 ans. Mais avant ça, c'était un calvaire. C'est-à-dire que je pense que j'ai commencé à me masturber très, très tôt. Je dirais 10 ans, 9-10 ans.
Okay. Ouais.
Et du coup, il y avait cette envie d'explorer la sexualité qui m'a apporté énormément de frustration parce que pendant plusieurs années, du coup, je dirais de 10 à 16 ans, j'avais ce besoin-là qui n'était pas assouvi du tout, quoi. Et du coup, j'étais extrêmement frustré.
Et tu as, quand tu disais que tu as eu des crushs et tu es tombé amoureux de filles, est-ce qu'avec elles, tu es allé jusqu'à les embrasser ? Est-ce que tu avais un petit peu d'échange charnel ou ça a été vraiment la solitude ?
Absolument pas. Ah ouais. La solitude, absolument pas. J'étais en fait extrêmement timide. C'est très drôle parce que plus du tout aujourd'hui. mais j'étais un timide maladif. Je pouvais pas parler à quelqu'un sans qu'on me prenne par la main, quoi.
D'accord.
C'était très, très, très... ouais, maladif, quoi.
Tu avais quand même des copains, des copines d'école ou tu étais un jeune garçon solitaire ?
Alors non, j'avais mes deux meilleurs amis. On était un trio inséparable, un garçon et une fille. Et heureusement, parce que sans eux, quoi, c'était ça aurait été la solitude. Mais d'ailleurs, avec eux, j'ai pu leur parler de j'ai fait mon premier coming out à 11 ans à mon meilleur ami mec. Je lui ai dit à 11 ans que j'étais homo. Bon, ça a jeté un froid au départ, et puis après, il a appris à mieux comprendre. Mais c'était trop jeune, quoi. Bah, on n'était pas exposé du tout, donc...
Ouais, et puis, oui, que ce soit l'endroit où tu as grandi, l'époque où c'était, et en plus 11 ans, qui est quand même un âge qui est vraiment tout début de la prépuberté, sortie de l'enfance. C'est vrai que c'est pour ce jeune garçon, c'était beaucoup d'un coup, hein.
Ah ouais, clairement. Mais heureusement, ouais, heureusement que j'avais ces deux amis-là, puis j'avais d'autres amitiés moins fortes, mais non, j'étais pas si seul que ça, mais j'étais seul dans mon, dans mes envies de naissantes de sexualité, de ce genre de choses. Je crois que j'étais assez précoce, donc j'avais un peu de mal avec ça. C'est l'adolescence a été très dure.
Et
à cause de ça, et voilà, parce que le fait d'être homo dans un village, quoi.
Ouais, je comprends. Et il se passe quoi alors à 16 ans ?
À 16 ans, j'ai rencontré un mec sur Internet, parce que on fait partie d'une génération où tout vient avec Internet. Mmh. Et sans ça, je sais pas comment j'aurais fait. Et donc je rencontre ce mec sur Internet et tout s'est fait très vite en fait. On se rencontre un soir, on va au cinéma. Et après le cinéma, ça s'est fait, première fois, première pénétration, j'ai détesté ça.
Mais alors du coup, tu rencontres ce garçon et c'est assez évident entre vous que vous allez avoir un rapport ou en tout cas une intimité partagée, mais c'est le premier corps d'homme que tu touches, à part le tien.
Ouais. Tout est allé très très vite. Ouais.
Bah, voilà. Est-ce que tu t'en rappelles un peu comment ça s'est passé ?
Je me souviens que j'étais bouillant en fait. C'était toutes ces 6 années de frustration.
J'imagine.
En fait. J'avais qu'une envie, c'était d'arriver à franchir le pas, quoi.
Et tu n'as eu aucun doute sur à ce moment-là ?
Absolument pas, non. Absolument pas. C'était non, moi j'étais prêt dans ma tête. Évidemment que j'avais peur. Hein, j'avais peur de passer à l'acte. Tu te poses plein de questions quand tu sais pas. Tu l'as fantasmé tellement de fois et tu l'as jamais fait.
Bien sûr.
T'as peur d'avoir mal, t'as peur de plein de choses.
Et donc, avec lui, il avait un peu d'expérience de son côté ?
Lui, il en avait un petit peu plus que moi.
Mm-hmm.
Du coup, c'était bien parce que du coup, il m'a guidé.
D'accord.
Moi, je savais pas par où commencer, dans quel angle faire tout ça. Lui, il m'a pas mal guidé. Donc, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, mais voilà, première pénétration. Je te dis, on allait très très vite.
Donc que tu reçois.
Ouais, je reçois et j'ai eu très très mal. Et du coup, j'ai pensé que je détestais ça en fait.
Mm-hmm.
Je me suis dit, c'est pas pour moi. Et bon, les choses ont changé depuis. Mais on était ensemble du coup pendant quelques semaines, plusieurs mois.
Ah oui, donc ça a été une petite histoire du coup.
C'est devenu une petite histoire, mais je m'y accrochais très fort parce que, comme je te dis, j'habitais toujours dans ce village où il y avait personne d'autre, quoi. Du coup, je me disais.
Il y en avait un, c'était pour toi.
Mais j'avais un peu ce sentiment que, voilà, j'en ai trouvé un, il faut que je le garde, quoi.
Et donc, du coup, vous commencez, enfin, toi, pour le coup, tu apprends un peu plus à ses côtés. Est-ce que, au fur et à mesure, les choses sont un peu plus simples dans l'appréhension de la sodomie, etc. T'arrives un peu plus à te projeter dans cette relation avec ces pratiques-là ou tu restes sur tes positions ?
Non, je crois que je suis resté pas mal de temps sur ces positions. Mm-hmm. C'était pas pour. On l'a fait plusieurs fois, hein, mais j'arrivais pas à me détendre, je crois. Je sais pas, ça marchait pas vraiment. Ouais, c'était pas comme dans mon imagination en fait. Ça faisait pas le même déclic. Ça faisait toutes ces années de frustration là qui étaient concentrées et puis quand ça arrive enfin, en fait, c'est pas exactement comme tu l'as imaginé.
Oui, puis j'imagine que tu te nourrissais à côté aussi de porno, donc c'est vrai que t'as aussi cette image pornographique qui est très travaillée, qui est faite par des professionnels avec des corps qui sont habitués. Donc c'est vrai que ça devait pas forcément matcher avec ce qui se passait avec ce jeune garçon de 17, 18 ans.
Exactement. Très très. Moi j'étais très maladroit, etc. Donc je voilà, ça c'était pas smooth comme tu le vois dans les films.
Ouais,
c'était
bien sûr.
Pas. Et puis moi j'étais quand même assez mal dans ma peau, j'avais beaucoup d'acné, je faisais pas de sport du tout, j'avais forcément en regardant du porno, tu vois des corps extrêmement développés, etc. Et puis moi je suis encore tout fragile, le corps tout mou et pas du tout
un jeune garçon.
Voilà quoi. Et non, j'étais très très mal dans ma peau et ça a duré assez tard. Donc, bon, ça m'a quand même libéré de voir que quelqu'un pouvait me...
Te désirer.
Me désirer, bien sûr. Mais à côté de ça, il y avait beaucoup de masturbation, en fait. Comme je disais, la masturbation est venue très tôt. Et je prenais, en fait, je pense, beaucoup plus de plaisir tout seul qu'avec lui. Ou même avec les suivants, il y a eu plusieurs autres partenaires ensuite. Dans la recherche, en fait, de mon corps, chercher les points sensibles, les...
Dans la masturbation, tu as, à ce moment-là, tu as toujours un support visuel qui est du porno ou tu peux aller dans ton imagination, puiser ce qu'il faut ? Il y a
beaucoup d'imagination.
D'accord.
Alors en fait, il y avait le porno d'un côté, puis après, il y avait aussi pas mal, je lisais pas mal de comic books et de BD, etc. Et après, l'imaginaire faisait que moi, j'imaginais des scénarios, des choses comme ça. On revient encore aux super-héros, ce genre de choses. Et les personnages de jeux vidéo aussi, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Donc tout ça, il y avait toujours des personnages, des histoires.
Ouais, un univers fantastique ouais. Autour de toi qui te nourrissait. Et donc ta masturbation, quand tu dis que tu vas dans l'exploration de ton corps, c'est-à-dire que ce n'est pas que le mouvement masturbatoire qu'on imagine, c'est que tu vas aller explorer aussi d'autres points érogènes chez toi.
Ouais. L'anal est venu très très tôt, du fait de l'influence du porno, évidemment. Mais aussi je suis incapable de dire à quel âge, mais je me souviens que très jeune je commençais à mettre des doigts ou des objets. J'étais en classe d'art, donc j'avais beaucoup de pinceaux et je me souviens essayer un pinceau, deux pinceaux et de plus en plus, et je suis devenu un peu obsédé par cette idée d'en mettre le plus possible, en fait.
D'accord.
C'était un peu un challenge personnel d'arriver d'en mettre le plus possible.
Et tu n'avais jamais peur de te faire mal ?
Non, parce que j'y allais doucement, quoi. J'y allais à mon rythme. C'est pour ça que justement, c'est la surprise quand je me suis fait prendre, c'est que la douleur était hyper intense, chose qui n'arrivait pas quand je jouais tout seul, quoi. Ouais, tu me demandais tout à l'heure par rapport au dégoût. Le dégoût est arrivé quand j'ai vu ma première vidéo. Je pense que j'avais 13-14 ans. J'ai vu une première vidéo de fistfucking. Et là, ça a été du vrai dégoût. C'était au collège, en fait. On allait voir on avait des PC. J'avais Internet à la maison aussi, mais je sais pas pourquoi on faisait exprès d'aller voir des sites horribles quand on était au collège, quand le prof regardait pas.
C'est l'âge, c'est l'âge où t'as besoin de sensations fortes.
C'est ça. Du coup, on allait sur ce site atroce qui recensait des photos d'accidents, de la route, de ce genre de trucs, et du porno, mais le porno le plus extrême possible.
Wow.
Et c'est là que j'ai vu mon premier porno de fistfucking avec c'était du porno allemand, deux daddies en cuir qui se mettaient des bras entiers dans l'anus.
Wow.
Le truc inconcevable pour moi à l'époque. Et ça a été un gros choc, en fait. Ça m'a dégoûté sur le coup. C'était vraiment... je comprenais pas pourquoi les gens voulaient faire ça... leur propre corps, enfin pour moi, j'avais l'impression que, si tu veux, que c'était un acte de haine plus qu'autre chose, de dégoût de soi, etc. Et du coup, ça m'a pas mal traumatisé, mais du coup, c'est une image qui est restée, qui m'a obsédé pendant très longtemps, en fait.
De comprendre comment... Alors, c'était quoi qui t'obsédait ? C'était de comprendre comment physiquement on est capable d'en arriver là, ou au contraire, psychologiquement, intellectuellement, émotionnellement, comment tu peux arriver à accepter ça ?
Mais les deux, du coup.
D'accord.
Les deux, parce que le comment et le pourquoi qui m'ont longtemps intrigué.
Mm-hmm.
Parce que le pourquoi, pour moi, je me suis dit que ça faisait extrêmement mal et que c'était... J'ai découvert plus tard l'ESM et ce genre de choses. Je me suis dit, c'est une pratique où il suffit de se faire mal. C'est du... comme les gens qui se coupent, ce genre de choses.
Oui.
Enfin, pour moi, c'était un truc de pour se faire mal. J'avais vraiment du mal à le comprendre, mais du coup, j'y ai réfléchi pendant très longtemps. Et puis après, de découvrir mon corps en solo, j'ai commencé à comprendre le pourquoi. J'ai découvert ma prostate.
Ah.
Et ça a changé beaucoup de choses, quoi.
Une illumination.
Ah ouais, vraiment. C'était... la prostate, en même temps que la masturbation, l'interaction, tout d'un coup, j'ai découvert... J'avais l'habitude de masturber, donc je connaissais l'éjaculation, etc. Mais là, je découvrais un autre spot qui faisait réagir et qui me faisait des effets partout, quoi.
Et ça, tu l'as fait tout seul ?
Ouais. Alors que me faire pénétrer par quelqu'un, ça le faisait pas du tout, quoi.
Ça a dû être incroyable pour toi, parce que qui était très jeune, qui n'avait pas encore ce recul-là, t'as dû te dire, mais j'ai découvert le Graal, ça y est, j'ai trouvé
c'est ça.
L'or qui est en moi.
C'est exactement ça. Et à partir de ce moment-là, en fait, ouais, j'ai plus arrêté, quoi. J'ai continué de me mettre des objets de plus en plus gros. Et puis, j'accélère un peu, mais j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai une relation assez longue de 3 ans.
D'accord, donc là, t'es majeur à peu près à ce moment-là ?
Alors, en fait, j'avais 17 ans, d'accord. Et puis de 17 à 19, coup. Je ne m'étalerai pas énormément dessus, parce qu'il s'avère que ça a été une relation extrêmement toxique pour moi. Ah. Dans le sens où c'était quelqu'un de très manipulateur et qui était extrêmement toxique. Enfin, ce que je peux te dire, c'est que je n'avais pas le droit, si tu veux, de... Dans le couple, j'avais pas le droit d'être passif. Alors moi, qui justement explorais en privé, qui avait de plus en plus d'envie en fait de me faire pénétrer, de découvrir des choses, etc. C'était formellement interdit dans le couple. Et on n'était pas un couple ouvert, on était des gamins. Donc
c'est très ambivalent parce qu'il avait une emprise sur toi émotionnelle et on va dire psychologique, tout en te demandant d'être dominant. Si je dois mettre dans une case, dans votre intimité sexuelle. Donc effectivement, et ça, c'est particulier d'avoir cette emprise.
Un bon pervers narcissique. et du coup, ça a été une relation traumatisante d'un côté, mais qui aussi m'a libérée. Enfin, une fois que je m'en suis défait, m'a beaucoup libérée en fait, parce que un sentiment de je veux plus jamais que ça se reproduise, quoi. Donc je me laisserai jamais faire et je prends contrôle maintenant de mes envies. Et
à ce moment-là, dans ta sexualité, bon, effectivement, vous étiez jeune et puis c'était encore pareil. Il y avait une image d'homosexualité qui était quand même encore très arrêtée. Les passifs, les actifs, ça se passe comme ça. Il y a forcément telle pratique dans la sexualité. Vous étiez, vous, guidé par ça. Donc c'est-à-dire que toi, t'es en tant que, entre guillemets, actif à ce moment-là, tu n'avais pas le droit d'être passif et lui en tant que passif, ne serait pas actif. D'accord.
C'est ça, des schémas très 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 arrêtés, aucune flexibilité là-dedans. C'était en fait, lui, je pense qu'il voulait correspondre à un format très hétéronormé.
D'accord.
Et du coup, voilà, il fallait que je sois le, entre guillemets, le mec hétéro viril qui correspondent à son image, quoi. Enfin, à l'image qu'il attendait de...
Je pense que cette génération dont tu fais partie, a beaucoup ce schéma dans le couple homosexuel, où il faut correspondre à une hétéronormativité avec un garçon plus viril, un autre un peu plus féminin, etc., etc. J'ai le sentiment, en tout cas, évidemment, c'est pas une généralité. Et j'ai l'impression, et heureusement, que les générations du moment changent complètement, éclatent complètement ces codes-là. Et tant mieux.
Hein. Ah oui. Mais c'est hyper libérateur de voir ce qui se passe
complètement,
maintenant.
Complètement.
Donc tu as ça fait très très plaisir.
C'est sûr. Donc tu as cette relation avec ce garçon qui effectivement te laisse quelques séquelles, on va dire, émotionnelles, mais qui te permet quand même de te donner plus confiance en ta sexualité, tes envies, tes désirs. Et donc là, tu as la vingtaine fringante. Que se passe-t-il ?
Je commence à prendre confiance en moi physiquement, sexuellement. Physiquement, tout s'arrange. L'acné est plus là. Elle est restée tard, hein. Elle est restée tard, mais là, elle est plus là et je découvre que je peux plaire. Et là, ça change énormément de choses. Je rencontre quelqu'un. C'est très étonnant parce que j'en parle pas d'habitude, mais je rencontre quelqu'un et quelqu'un avec qui je suis toujours.
Ah.
Donc c'est une très très longue relation.
Donc nous n'allons pas trop en parler pour garder votre jardin secret. Mais donc tu rencontres ton compagnon actuel, donc ça va faire plus d'une dizaine d'années.
Ça fait 13 ans. Ouais.
13 ans, waouh.
C'est ça. Et en même temps, parce que je sors d'une relation hyper toxique, j'impose un peu j'impose, entre guillemets, sur le long terme, le couple ouvert.
Il est d'accord.
Moi, il faut que je... Ouais, ça prend du temps, mais sur le long terme, ça marche. Et voilà, pour moi, c'était hyper important, en fait, de pouvoir explorer, de pouvoir tester plein de choses avec plein de gens. Et en fait, il y a le mot très péjoratif pour certains de salope, en fait, où j'ai envie d'être une salope. C'est le truc, ça paraît très sexiste parfois, parce qu'il n'y a pas d'équivalent masculin.
Ouais, c'est vrai que le salaud de salope n'a rien à voir. Et,
donc, pour moi, il y a le terme slut qui marche très bien en anglais. Ah, oui. Qui, voilà. Donc, moi, en fait, j'ai ce besoin d'explorer ma sexualité et d'essayer plein de choses avec plein de monde et de le vivre pleinement.
Là, tu n'es plus dans ton petit village et ta ville natale. Tu es...
Non, voilà. Je suis monté à Paris. Je suis monté à Paris à 19 ans, ça a changé beaucoup de choses.
Donc d'accord, donc une fois que tu as quitté ce garçon, il y a eu effectivement ce glow-up de ta personne intérieure-extérieure. Et à Paris, c'est là où tu rencontres ton compagnon actuel, mais aussi que tu peux commencer à avoir cette vie sexuelle beaucoup plus libre, ouverte, complète, pleine, diverse. Comment tu rencontres les gens ?
Internet. Donc, site de rencontre gay, et là, c'était très, très cash. C'est, on se voit que pour du sexe, il n'y avait pas aucun... Je ne cherche pas à me faire des amis, je ne cherche pas à faire un mec, à me mettre en couple. Non, j'ai tout ce qu'il faut, c'est juste du sexe.
D'accord.
Et très, très vite, en fait, donc avec mon partenaire, en fait, je découvre le fistfucking.
C'est avec ton partenaire que tu découvres ça, ok.
Ouais. La toute première fois, en fait, où je me fais fister... ça fait toujours bizarre en français. La première fois où je me fais fister, donc c'est quoi
le terme que tu emploies toi en anglais?
C'est to fist, to be fisted, mais du coup je sais pas en français.
Oui, je comprends ce que tu veux dire.
Ça fait bizarre. je crois que c'est à 20 ans, 19 ou 20 ans, voilà.
Mais
ça
c'est une
la
demande
fois,
de.
Je me fais fister.
C'est une demande de ta
de
part,
ma part,
ouais. Ok.
Ouais. C'est moi que je le pousse à essayer. J'en ai très très envie et en fait c'est. Ça rentre tout seul parce que j'en ai très envie, en fait. J'en ai très envie. Bon, évidemment, moi, j'ai continué d'explorer tout seul. Donc, je me suis amusé à, comme je disais, à insérer des objets toujours de plus grande taille.
Pour faire un petit point anatomique, parce que ça reste quand même une pratique qui est... alors, j'ai pas de chiffres, hein, et puis je sais pas s'il en existe d'ailleurs sur ce sujet, mais ça reste quand même une pratique qui est pas très courante, même si elle l'est quand même, parce que en m'intéressant un peu à ton travail, j'ai remarqué qu'effectivement il y a quand même une demande et de gens qui le pratiquent ou qui le font ou qui regardent. Il y a quand même vraiment un fort intérêt pour le fist en général, mais il faut quand même faire un petit warning là-dessus où c'est quand même fait, enfin, par des professionnels dans le sens. Où il ne faut pas refaire ça à la maison comme ça sur un claquement de doigts. Il y a quand même une préparation et tu l'expliques très bien où très vite tu as appris à ton corps aussi à alors je ne sais pas quels sont les termes exacts, mais à se dilater ou en tout cas à avoir alors c'est un muscle, on est d'accord, c'est ça?
Oui.
Donc les sphincters sont un muscle, donc il faut aussi travailler ça comme un, c'est pas un athlète. Si je dois faire un
comparatif. Non, mais c'est ça en fait, c'est un muscle, donc comme tout muscle en fait ça se travaille, c'est comme une séance de musculation au final. Tu travailles à le dilater pour le rendre plus fort entre guillemets. Et plus tu pratiques en fait, et bien sûr il faut pratiquer avec un très bon lubrifiant et prendre son temps et respirer, etc. C'est des choses qui se font, mais sur un long terme, c'est pas quelque chose qui se fait en une journée, quoi.
Bien
c'est,
sûr, moi,
ça m'a pris des années d'exploration, moi.
Exactement.
Voilà.
Mais c'est un peu, enfin, si je dois faire un parallèle pour les personnes qui ont une anatomie de génitale femme, c'est comme le périnée, quoi. Pour travailler son périnée, c'est des petits exercices
bien
tous
sûr.
Les jours pour avoir un périnée très renforcé. Donc, effectivement, c'est un peu le si je dois faire un parallèle, même si bon, les hommes ont un périnée, mais on le conscientise un peu moins, c'est un peu le même parallèle pour arriver à des performances comme tu es capable de faire aujourd'hui.
Ouais.
Donc d'accord, donc tu commences avec ton partenaire actuel ce fist, et alors là comment ça se passe pour toi?
Ah ben, en fait c'est une révélation, c'est mon premier orgasme.
D'accord.
C'est un truc de fou, c'est j'ai mon cerveau qui explose, c'est je suis dans un état vraiment second, tout d'un coup je perds complètement contrôle de mon corps, j'ai commencé à avoir des spasmes.
Ah oui.
un bon gros orgasme, quoi. Le truc, j'ai su à partir de ce moment-là que c'était pour moi, quoi. C'était ça qui me. C'était ça que je voulais, quoi.
Ok.
Et à partir de là, je n'ai recherché plus que des interactions de ce genre-là. C'est-à-dire que maintenant, à chaque fois que je vais faire des plans cul, et j'en fais beaucoup, c'est systématiquement du fist. Il n'y a plus du tout de sexe normal entre guillemets.
C'est-à-dire, il n'y a plus de pénétration anale, entre guillemets, lambda.
Voilà, la pénétration standard, voilà. Non, ça m'apporte pas la même satisfaction. Et beaucoup de gens vont me dire, ah, c'est parce que tu es trop large, donc tu sens plus rien. Non, c'est pas ça du tout. C'est complètement différent, en fait. Il faut imaginer qu'une main, en fait, une main, c'est la partie du corps qu'on contrôle le plus, en fait, sur notre corps. Donc, une main qui s'insère en toi, c'est un massage, en fait, qui va t'être procuré, un massage sur la prostate, sur le sphincter, sur tout le système nerveux qui est en toi. Mm-hmm. C'est tellement différent qu'un phallus qui va tout droit et qui fait des va-et-vient, en fait.
Et qui est en plus moins contrôlable. Enfin, finalement, que ce soit l'érection ou le mouvement de va-et-vient, un phallus, ça se contrôle difficilement.
Exactement.
Du coup, tu cherches quand même des partenaires qui maîtrisent le sujet.
Oui. Oui, oui. Et ça, c'est là que c'est le bas blesse. Et souvent, tu rencontres des mecs qui fantasment énormément dessus, mais qui n'ont pas de pratique.
Ah
et,
oui.
Et c'est là que le risque est élevé, en fait, que quelqu'un te blesse ou de blesser, parce que du coup, j'explore en tant que passif, mais en tant qu'actif aussi.
D'accord.
Je commence à fister d'autres mecs, etc.
Ouais, mais toi, du coup, t'as un peu plus le recul sur ce qu'il faut faire et pas faire, j'imagine.
Exactement. Et puis, avec le temps, finalement, tu commences à rencontrer des gens qui maîtrisent. Et puis, en fait, ça devient des réguliers.
Oui, c'est, j'imagine.
Parce que voilà, on se comprend, quoi. Mm-hmm. On comprend ce qui nous fait du bien et ça change tout.
D'accord.
Donc, il m'arrive même encore aujourd'hui de rencontrer des mecs qui connaissent pas, mais voilà, faut les guider, quoi. Il faut toujours faire très attention, faut toujours...
J'imagine que effectivement d'un point de vue médical, même si j'aime pas trop le terme, mais en tout cas tu prends un risque physique à chaque fois que tu reçois et donc il y a quand même un petit temps aussi, j'imagine, pour que toi aussi ton corps se remette et quand il reçoit se mette en condition. Enfin, il faut faire il y a des étapes, j'imagine, et puis tu prends quand même à chaque fois, même si chaque relation sexuelle, tu peux toujours te blesser d'une façon X ou Y, mais j'imagine que dans cette pratique, il y a une prise de risque physique un peu plus importante.
Ouais, mais c'est pour ça que mine de rien, tu peux quand même très souvent le comparer au sport ou à la musculation en général. C'est un muscle, tu travailles un muscle et donc il y a un temps de repos qui vient après, il y a un temps de préparation, tu fais pas ça sans échauffement, c'est très très proche de la musculation et tu vas avoir, après une séance, tu vas avoir un jour, deux jours de repos parce que c'est un peu endolori ou fragile ou irrité. C'est la même chose.
Et alors, donc, pendant cette période-là où tu es à Paris, donc au début de ta vingtaine, c'est là où donc, tu vas explorer tout ce que tu peux dans ce domaine-là. Est-ce que tu vas dans... C'est de particulier à particulier. Est-ce que tu côtoies des clubs? Est-ce que... Alors, évidemment, je vais te poser la question parce que c'est le seul, malheureusement, dans la pop culture, c'est la seule chose que les gens connaissent, c'est la fistinière qui a fermé, je crois, d'ailleurs, dans le Berry.
Ouais.
Est-ce que tu côtoies des milieux qui sont dédiés à ça? Comment tu commences à évoluer sur une forme de professionnalisme du sujet?
À l'époque, pas du tout. Mm-hmm. À l'époque, c'était vraiment
ta vie sexuelle,
très intime. Voilà. Et puis, les clubs, tout ça, c'est venu plus tard. En fait, c'est venu une fois que j'ai bougé à Tokyo.
D'accord.
C'est là que j'ai découvert, en fait, la première fois que j'étais dans un sex club, c'était à Tokyo.
D'accord.
Et voilà, là, ça... C'est devenu une habitude, alors beaucoup moins récemment à cause du Covid, évidemment.
J'imagine.
Là, ça fait un an que... Enfin, un an, mais presque que j'y vais plus. Mais... il y a pas mal de clubs qui sont spécialisés. Mm-hmm. Et la fistinière, alors moi, personnellement, je n'y suis jamais allé, mais je connais pas mal de monde qui y a été et qui en dit beaucoup de bien. Donc j'aurais beaucoup aimé pouvoir le visiter un jour. Même si ça fait beaucoup rire, etc.
C'est folle chose. C'est surtout le traitement médiatique qui en a été fait qui rend
c'est ça, bien sûr.
La chose folle clou. Après, je crois, je veux pas me dire de bêtises, mais je crois que ça a fermé. Ils ont pas retrouvé de repreneur et que les propriétaires souhaitaient faire leur petite vie à la retraite.
Je crois qu'ils cherchent encore. Mais j'espère parce que en fait, finalement. Il y a rien de plus safe qu'un endroit où personne ne te juge et où tout le monde est prêt à t'aider en fait à explorer quelque chose de très 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 intime et de très sensible.
Est-ce que c'est une pratique qui est quand même à ton sens marginale?
Ah oui bien sûr. Moins, alors c'est marrant parce que donc j'ai commencé le porno maintenant il y a quelques années. Mm-hmm. J'ai commencé en faisant des vidéos j'ai commencé sur Tumblr, feu Tumblr.
Ah oui.
Puis XTube. Et à l'époque de XTube, en fait, je pense que j'étais un des seuls jeunes mecs qui faisait ça, en fait.
D'accord.
À l'époque, il n'y en avait pas du tout. Et tu compares aujourd'hui, il y en a des centaines, voire des milliers sur XTube, sur Pornhub, et puis maintenant Twitter. Twitter explose avec les jeunes mecs qui pratiquent le fist.
Parce que c'est vrai donc que les gens qui ne savent pas, qui ne te connaissent pas, tu es, et c'est un auditeur que nous avons, en ami en commun, qui m'a donné ton contact, mais pour les gens qui ne savent pas, tu es un des piliers du fist et de cette pratique-là aujourd'hui. C'est vrai que tu fais partie des références dans ce milieu-là, et tu es, on va dire, performeur, pornographeur. Mais c'est vrai que tu as un écho dans ce milieu-là qui est très fort et tout le monde, en tout cas les gens qui s'y intéressent fortement, te connaissent.
Ouais, tout le monde, je sais pas.
Beaucoup de gens, en tout cas, dans ce milieu-là.
Mais voilà, ouais, j'ai une petite réputation. ouais, je pense qu'en fait, j'ai commencé sur XTube et voilà, il y avait quelques mecs qui le faisaient mais qui montraient pas leur visage, etc. Je crois que ça a changé pas mal de choses dans le sens où moi j'étais jeune, mec dans la vingtaine.
Tu es beau garçon.
Et qui montre son visage, merci. qui montre son visage et qui assume en fait. Mmh. Et c'était autre, parce qu'il y a toujours eu du porno de fist depuis les années 70, 80. Tu trouves des films de mecs qui se font fister, etc. Mais le porno, c'est toujours différent. Le porno studio, c'est toujours très différent dans le sens où c'est très mis en scène, c'est beaucoup de mise en situation où le mec se lâche pas vraiment en fait et je crois que les vidéos amateurs ont tout changé parce que je fais mes propres montages etc et je coupe pas les scènes où je fais des têtes bizarres à cause des visages des expressions bizarres de visage parce que j'ai un orgasme ou ce genre de choses. Moi je trouve ça au contraire très sensuel et très très sexy. Mais à une époque j'aurais trouvé ça immonde parce que tu fais une tête bizarre, quoi. T'as le visage crispé, les yeux révulsés, c'est ridicule, entre guillemets.
Bah, c'est vrai que le porno, alors, qui évolue notamment sur des formes de porno plus éthiques ou plus réelles ou plus où il y a une diversité, amène aussi ces plans images où tu vois les choses qui ont été jugées par le passé non esthétiques. Mais tu vois effectivement davantage de vraies scènes de la vraie vie et que ce soit du porno, on va dire, alors j'aime pas dire pour hétéro ou pour homo ou peu importe, on regarde ce qu'on a envie de faire et ce qui nous fait plaisir et il n'y a pas de case. Mais c'est vrai que de plus en plus, on arrive à montrer des choses qui sont plus réelles et ça fait du bien de voir aussi ces vraies images-là. Ne serait-ce que, j'en parlais avec un invité il n'y a pas longtemps encore, ne serait-ce que voir... quand tu reçois en tant qu'homosexuel, ne pas forcément avoir d'érection, c'est des choses qu'on ne voyait pas encore il y a quelques années.
Ah oui, bien sûr.
Et maintenant, on peut voir un homme qui ne bande pas à l'écran dans le porno. Et c'est assez récent, finalement.
Mais t'as encore ça. J'ai encore tourné il n'y a pas si longtemps pour un studio américain. Les Américains, si tu ne bandes pas, ça ne marche pas, quoi. Donc, ils vont te proposer des pilules, des trucs, des piqûres pour que tu bandes. Mais
oh là là.
C'est... Alors que bah, finalement, en plus, moi, je ne fais strictement que du porno de fist. Mm-hmm. Donc, en fait, il n'y a aucun intérêt à ce que ma bite soit dure. Quoi. Ça n'apporte rien.
Oui, exactement, c'est ça. Ça n'apporte rien ni au scénario, ni à quoi que ce soit.
Voilà. Et c'est absolument pas réaliste.
En plus.
Donc, il y a des moments où ça arrive, tu te fais fister et tu bandes. Et il y a d'autres moments où ça n'arrive pas. Et en fait, c'est pas ce qui est important, donc on s'en fout, c'est pas... quoi. Mais non, les studios, souvent, ils veulent que tu jouisses à la fin, donc ils veulent voir une éjaculation, chose qui souvent n'arrive pas non plus après le fist, parce que tu stimules tellement la prostate qu'au bout d'un moment, elle est épuisée. Et du coup, tu passes par un orgasme, un orgasme anal qui est complètement différent, en fait.
D'accord.
Le stimulus, c'est pas du tout le même, et il n'y a pas d'éjaculation à la fin, mais t'en as pas besoin. La satisfaction est là quand même.
Oui, c'est vrai qu'il y a encore une forme de pédagogie à faire sur sur ces orgasmes-là et sur la pratique. Ouais. Et tu as vu justement les différences de travail de studio en fonction des pays ou en tout cas des productions pour lesquelles tu as travaillé ?
Pour le coup, pas tellement, parce qu'en fait, moi, j'ai tourné... en fait, à la base, je faisais mes vidéos en amateur, oui, de mon côté sur Xtube au Japon.
Mm-hmm. Donc, ton propre patron.
Voilà. Et puis après, c'est les studios américains qui m'ont... Enfin, un studio américain qui m'a contacté, mm-hmm, Falcon, et ils m'ont envoyé là-bas, donc j'y suis allé plusieurs fois. C'est les seuls, en fait, c'est le seul studio avec lequel j'ai bossé. J'ai bossé avec un autre petit studio amateur aux États-Unis aussi. Mais c'est tout, j'ai pas bossé avec d'autres studios très vite, en fait, je suis passé à ma propre production.
Oui, c'est ça ce que tu disais, c'est que tu es vidéaste et c'est toi qui fais tes propres scènes, tes propres films. Et du coup, tu as cette liberté-là de montrer ce que tu as envie de montrer.
C'est ça, c'est okay. Ça. En fait, c'est... les toutes premières vidéos, c'était un exercice pour moi, parce que j'ai fait des études de cinéma.
Oui, j'allais te demander comment c'est venu, en fait, parce que effectivement, c'est pas la pratique est une chose, vouloir en, ouais, faire son métier, c'en est une autre, mais la façon dont tu travailles aussi tes images, elle est très professionnelle, elle est très belle, elle est... Alors, je t'avoue que j'ai pas pu tout regarder, parce que c'est pas forcément sur ce quoi je serais allée, mais je suis quand même allée voir un peu ton travail. C'est vrai qu'il y a un travail qualitatif d'image qui est assez, enfin qu'on ne peut que constater.
Merci.
J'en prie.
non, effectivement, c'est.
Donc, t'as fait des
à
études
la base,
de
c'était
cinéma.
Vraiment un exercice. J'ai fait des études de cinéma, ouais, et fac française. Donc fac française, en fait, quand tu mets pas les moyens, parce que la fac est gratuite,
ouais,
tu n'apprends pas la technique. Donc, pour ça, il faut aller dans les écoles de cinéma qui coûtent autre chose ou qui, mm-hmm, sont très compliquées d'accès. Donc, en fait, j'ai appris toute la théorie, mais j'ai absolument pas appris à comment faire des films. Et c'est comme ça que je me suis mis à exercer, en fait, à bidouiller des caméras, des trucs, à faire du montage en solo à la maison.
Mm-hmm.
Et un jour, j'ai décidé de me filmer en train de me fister. C'est comme ça que ça a commencé.
D'accord.
Mais c'était pas j'avais pas prévu de le mettre sur Internet, quoi. Et puis, finalement, dans l'excitation, j'étais content de mon résultat. Et je suis quand même très exhibitionniste.
Mm-hmm.
Du coup, dans l'excitation, je l'ai mis sur Xtube. Et je me suis dit, je supprimerai plus tard, on verra la réaction. Et puis, la réaction a été ultra positive, en fait. C'était une très, très grosse surprise. C'est monté très vite en vue.
Mm-hmm.
Et du coup, dans l'excitation, en fait, j'ai très, très vite fait d'autres vidéos, quoi. Ça ne fait que augmenter en termes de popularité. Ça a été un peu, surprenant. Et puis, après, il y a des gens qui m'ont contacté. Donc, et puis, quelques années plus tard, c'est en 2016, je crois, l'activiste et acteur porno Buck Angel, qui est à Tokyo pour la Gay Pride, et on se rencontre, on filme ensemble et il voit mes vidéos et là il me dit mais t'es passionné, t'adores ça, faut que tu en fasses ton job, quoi. Parce que à la base j'ai un job à côté, je fais ça pour le fun et c'est un truc perso, quoi, c'est un projet. Mais il me dit non, arrête de balancer tes vidéos sur Xtube. Déjà il m'a un peu engueulé parce que il disait tes vidéos sont trop bonnes pour être gratuites parce que tu nous grilles le business.
Ah ouais, il y a un vrai sujet d'équilibre aussi entre ce que tu peux mettre en gratuité et ce que tu peux proposer comme contenu payant. Mmh. Donc là, sous ses conseils, ouais, à lui, il te dit c'est trop quali ce que tu mets en gratuité. Un, c'est pas cool pour notre business parce que du coup, nous, on demande de l'argent pour la même chose. Donc, et en même temps, t'es passionné, faut aller plus loin.
Ouais, lui il me dit en fait il faut vraiment que tu lances ton propre label et que t'explores ça vraiment professionnellement parce que, mm-hmm, t'es fait pour ça, quoi. Et moi je l'avais vraiment jamais envisagé, honnêtement. C'était j'ai jamais rêvé d'être acteur porno.
T'es parti au Japon pour toute autre chose.
Ah oui, rien à voir.
D'accord.
Oui, c'était dans la vidéo. Enfin, à la base c'était parce que j'avais une fascination pour la culture japonaise et j'ai eu l'opportunité de partir là-bas. Mais la vidéo c'est venu petit à petit en amateur et ça avait absolument rien à voir. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, le Japon, ma vie au Japon n'a absolument rien à voir avec le fait que je fasse du porno.
D'accord.
Ça a même tendance à compliquer les choses.
D'accord. Parce que moins d'ouverture là-bas.
Alors C'est marrant parce que le Japon, en fait, est le plus gros producteur de porno au monde.
C'est vrai, c'est pas les États-Unis.
Non, c'est le Japon, de loin
pas.
Apparemment.
Ah oui.
Je suis pas sûr des chiffres, mais apparemment de loin. Mais qui s'exporte très très peu, en fait. C'est vraiment très très, c'est un marché très très local. Et ça va vraiment dans tous les sens, quoi. Ça peut être très 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 extrême. Mais il y a la règle de la mosaïque. C'est-à-dire que tous les pornos japonais, à partir du moment où il y a des parties génitales, que ce soit masculin, féminin, il faut que ce soit flouté.
Ah!
Voilà. Et donc ça complique beaucoup de choses.
Tu m'étonnes!
Et il y a des gens pour qui ça devient même un fantasme, en fait. Les gens qui ne voient plus de mosaïque, en fait, sont perdus. Ils ont besoin de leur mosaïque, si tu veux, pour fantasmer, en fait. Si tu montres trop, c'est trop cru. La pratique peut être la plus extrême possible. Ça peut aller jusque dans le scat. Mais non, il faudra une mosaïque.
C'est très ambigu parce que tu dis ça peut être très extrême, mais en même temps, mais c'est même très hypocrite tout ça.
Ah, complètement, ouais.
Ok.
Ouais. Donc c'est de toute façon, c'est un très très vieux gouvernement avec des très très vieilles personnes à la tête. Et c'est tout est très hypocrite. Donc moi, en fait, je travaille pas du tout avec le marché japonais.
D'accord.
Mon label est en fait hébergé aux États-Unis, avec les mêmes gens justement qui travaillent avec Buck Angel, qui est celui qui m'a convaincu de me lancer là-dedans. Donc je le remercie encore beaucoup aujourd'hui, parce que sans lui, j'aurais jamais franchi le cap. Mmh. Et voilà, donc ça n'a vraiment rien à voir avec le fait que je sois au Japon, bien que je filme au Japon, ce genre de choses. Mais je voyage beaucoup, hors pandémie, je voyage beaucoup pour mes films.
J'imagine.
Ouais.
Et donc, aujourd'hui, tu produis, tu mets d'autres performeurs en scène, toi, évidemment.
Ouais. L'idée, c'est un peu de chercher des nouveaux talents, d'explorer à la fois, en fait. Pour moi, il y a vraiment deux choses. C'est d'un côté, le côté... l'aspect sexuel de la chose, où j'ai vraiment envie d'explorer des fantasmes qui sont les miens ou ceux des autres, souvent quand même dans des pratiques assez extrêmes, donc le fist essentiellement, et puis ça peut être Uro, ce genre de choses, BDSM récemment, et le fétichisme en général, le cuir, le latex, toutes ces pratiques-là. Et puis de l'autre côté, Et de l'autre côté, il y a l'aspect cinématographique, en fait, qui m'intéresse, où j'ai aussi envie d'explorer, et c'est ça qui est génial, c'est que le fait que je sois mon propre réalisateur, en fait, je fais ce que je veux.
Mais alors, du coup, sur une vidéo, tu vas réaliser, tu vas scénariser, tu vas faire la direction d'acteur, tu vas l'écrire. Donc, en fait, tu produis de bout en bout ton film que tu diffuses.
Ouais. Alors c'est plus simple que ça, parce qu'en fait je veux surtout pas scénariser mes films.
D'accord.
Donc il y a pas d'histoire, c'est souvent très documentaire entre guillemets, c'est-à-dire que je mets des performeurs, j'aime pas dire acteurs d'ailleurs, parce que c'est pas du jeu, c'est pas du cinéma, c'est pas du théâtre, on fait pas semblant. Moi justement ce que je veux c'est filmer du vrai sexe, en fait.
D'accord. Donc la rencontre
des vraies interactions,
entre ces deux performeurs, et après tu la sublimes à travers ton image et tu les suis dans leurs rencontres, dans leurs pratiques. Tu les diriges un peu quand même, ou tu laisses vraiment une liberté totale ?
Ça va dépendre, ça va aller au feeling, ça va dépendre. Il y a des mecs qui ont besoin d'être dirigés, et d'autres pas du tout. Le premier conseil que je donne en général, c'est d'oublier la caméra et d'oublier que je suis là, ou que le caméraman est là si c'est moi qui suis devant la caméra. Donc je donne des directions au caméraman en général, mais c'est tout. Les performeurs, en fait, j'ai envie qu'ils explorent, qu'ils développent leurs propres envies, leurs propres pratiques à l'écran.
D'accord.
Je veux un truc authentique, en fait.
Ok. Donc tu arrives à trouver des performeurs qui jouent le jeu, et c'est après là-dessus que toi tu vas travailler pour en faire vraiment ce joli moment de vidéo, et après tu le mets sur ta plateforme, et c'est là où effectivement les spectateurs vont pouvoir découvrir ce que tu filmes et ce que tu proposes. Et ça aujourd'hui c'est devenu ton métier.
C'est ça. Donc je travaille toujours dans la vidéo à Tokyo. En privé pour des choses qui ne sont absolument pas liées au porno, mais ça c'est autre chose. Mais le porno a quand même pris, je dirais, 80% de, de toute la place, quoi.
Et alors, dans ta vie privée, alors évidemment, on va pas trop rentrer sur ce terrain-là, parce que effectivement, tu veux garder ce jardin secret avec ton compagnon qui donc partage ta vie depuis 13 ans. Lui travaille avec toi ou est complètement à côté? Est-ce que vous faites rentrer cette activité de pornographeur dans votre quotidien? Ou c'est quelque chose qui t'appartient totalement?
Je dirais que c'est quelque chose qui m'appartient totalement, mais il lui arrive de participer derrière la caméra parce qu'il est, il est artiste lui-même, graphiste, drag queen aussi d'ailleurs, donc qui apparaît parfois sur mes réseaux sociaux, ce genre de choses.
D'accord, donc il a aussi un univers qui peut un peu flirter avec le tien.
Et voilà, mais pas du tout devant la caméra, non.
D'accord. Et dans votre vie intime, vous avez réussi à trouver un bon compromis entre toi, tes attentes, tes fantasmes, tes désirs et votre intimité de couple qui a 13 ans de vie commune maintenant.
En fait, tout ce qui est ma sexualité, en fait, je crois que c'est à part, en fait. C'est vraiment tout ce qui se passe en dehors du couple. C'est un truc qui est à moi et... mais ça fonctionne bien, en fait. On en parle très ouvertement, sans aucun tabou ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Mais voilà, c'est mon truc à moi, quoi.
D'accord.
Du coup, ça se passe pas à la maison. Je vais ailleurs. J'ai joué, on en parlait tout à l'heure, dans les sex clubs ou les love hotels. Au Japon, on a des love hotels qui sont des hôtels que tu loues pour 2-3 heures.
Et donc, du coup, à la maison, c'est la tendresse et c'est cette intimité-là que tu ne partages pas ailleurs.
C'est ça, exactement.
Super.
Donc, c'est assez séparé, en fait. Mmh. Ouais, mon point de vue, c'est l'amour et le sexe sont deux choses quand même très, très, très séparées, dans mon cas, qui peuvent se rejoindre, bien sûr, sans aucun problème, mais qui peuvent être aussi complètement indépendantes l'une de l'autre. Et à partir du moment où... pour moi, le sexe peut être une pratique comme une autre, ça peut être un passe-temps comme un autre, et c'est pas forcément un truc de sentiment ou de choses comme ça. Il faut bien sûr une attirance et une émotion, mais pas forcément des sentiments.
Je comprends.
Et en voyant les choses comme ça, en fait, ça rend quand même tout beaucoup plus simple. Après, à partir du moment où tu fais confiance dans le couple, où l'un et l'autre se font confiance et où il n'y a pas de secret, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de mensonge, tout est beaucoup plus simple.
Et mais je comprends tout à fait ce que tu dis et c'est très juste en tout cas. Quel justement regard toi tu as sur ces couples qui se déchirent parce que on va pas genrer hein, mais l'un ou l'autre a trouvé le SMS qui était un petit peu plein de sous-entendus sur le portable de l'autre, ou un couple dont un des partenaires aurait une libido qui lui donne envie d'aller voir ailleurs et l'autre qui le retient absolument à la maison et sinon c'est un coup de canif dans le contrat. J'imagine qu'avec le recul que tu as et la sagesse que tu as sur ce sujet, ça doit être assez particulier. Je ne sais pas si tu, d'ailleurs, côtoies des gens qui sont ainsi.
Si.
Comment tu arrives un peu à discuter avec ces gens-là?
Alors, je ne le dis pas avec ces mots-là, mais moi, je trouve que c'est un énorme gâchis, en fait, parce que le sexe, c'est un truc pour soi. Enfin, c'est une question de plaisir. Le plaisir, on le ressent d'une personne à l'autre. Ce n'est pas les mêmes choses. Ce n'est pas les mêmes... C'est pas le même background, c'est pas les mêmes émotions, c'est pas les mêmes... Si on commence à se forcer à une relation, tu dois faire ci ou tu dois faire ça, ou tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, c'est du gâchis. Mmh. Mais je le comprends pourquoi, je vois d'où ça vient. On a été éduqués comme ça, moi-même. Il a fallu que je me... rééduque, entre guillemets.
Déconstruise pour te reconstruire sur ça, ouais.
C'est ça, ouais. Donc je comprends d'où ça vient et je comprends la difficulté d'arriver... J'ai beaucoup de chance, j'estime que j'ai beaucoup de chance d'avoir cette liberté-là, mais c'est tellement, tellement beau, en fait, quand tu arrives à avoir une complicité, que ce soit avec des amis, en couple, etc., et où tu peux partager des moments d'intimité... De grands plaisirs que tu donnes du plaisir ou que tu reçoives du plaisir, d'ailleurs, c'est dans les deux sens.
Bien sûr.
C'est ça change tout. Enfin, pour moi, c'est très très lié au bonheur en général.
Ah, moi je suis persuadée que si tout le monde réfléchissait comme toi, il y aurait vraiment moins de soucis sur Terre. moins de guerre, moins d'agressivité.
Je pense aussi.
Ah non, mais c'est certain. Les gens seraient plus zen, plus cool avec eux-mêmes, il y aurait moins d'incivilité. Enfin, ce serait tellement plus. Alors. évidemment dans le respect de chacun et dans un contrat moral, mais qui est voilà de se dire les choses s'il faut, de faire attention à la santé des partenaires, mais ce serait tellement plus simple si ne serait-ce que sans forcément le vivre, au moins l'intégrer et l'intellectualiser, ce serait si simple.
Mais en fait c'est une question de respect de l'autre aussi. Mm-hmm. J'ai des amis qui sont qui se autoproclament asexués ou oui c'est ça asexués. Mm-hmm. Qui n'ont absolument pas de désir et ils trouvent leur bonheur ailleurs et de toute façon le sexe n'est qu'une partie de ce qui peut contribuer au bonheur, mais pourquoi se priver quand on a quelque chose, quand on a des envies, pourquoi s'en priver, pourquoi se freiner. Mm-hmm. Et je pense qu'une personne qui aime une autre personne devrait être motivée ou devrait être poussée à aider cette personne à atteindre la plénitude, quoi, la satisfaction.
Avec ou sans. C'est-à-dire que s'il ne peut pas lui donner... c'est vrai qu'il y a des couples... Enfin, j'ai interviewé des hommes où, effectivement, leur partenaire avait très envie d'une histoire avec une femme. Tu vas en avoir certains qui vont pousser leur partenaire à vivre ce moment parce que c'est son jardin secret, c'est son envie. Et d'autres qui... pour lesquels l'idée est insupportable et du coup ça va créer une frustration, générer des tensions. Ouais. Enfin, tu vois, c'est vrai que je pense que la déconstruction que chacun peut faire avec lui-même ne peut que après rayonner et résonner sur sur soi. Du coup, on a l'air plus ouvert, on est plus ouvert à l'autre, mais aussi dans son couple, auprès de ses amis, auprès des gens.
Exactement.
Et ça, ce serait formidable que tout le monde prenne cette énergie positive et là. Enfin bref, mais bon, on n'y est pas. Mais en tout cas, c'est bien que au moins, cette vision que tu as, que je qualifie de sage, va rentrer dans quelques oreilles d'auditeurs et d'auditrices et peut-être va faire son petit chemin. Mais ça, c'est intéressant. On va bientôt arriver à la fin de notre entretien. C'est quoi un peu ta vision, ta sexualité future ? Est-ce qu'il y a, j'imagine, la réponse, mais est-ce qu'il y a encore des domaines d'exploration vers lesquels tu veux aller ? Aujourd'hui, ton métier de pornographeur prenait 80% de ton activité. Est-ce que il y a un objectif de 100%? Est-ce que tu as une projection un peu de ce que tu as envie de faire dans les années futures?
Une projection, je pense que, alors je vise pas les 100%, ou en fait je sais pas, j'y réfléchis pas vraiment, j'ai juste envie de continuer sur la lancée parce que je m'amuse énormément et je crois que c'est assez communicatif, donc ça fait très très plaisir quand tu reçois des messages de gens qui disent qu'ils sont motivés entre guillemets ou inspirés par ce que je fais. Mm-hmm. c'est hyper motivant, donc j'espère continuer comme ça. Puis il y a un petit côté ça peut paraître prétentieux mais éducatif dans ce que j'essaie de faire, dans le sens où je sais qu'il y a une responsabilité. Il y a des jeunes mecs qui vont découvrir le porno comme moi, j'étais très jeune et j'ai découvert moi-même. Et donc du coup, parce que je fais des pratiques très extrêmes, j'espère qu'ils vont suivre en fait un peu mes conseils et mes pratiques. En fait, j'essaie de montrer des pratiques très safe. J'explique comment faire son lubrifiant, j'explique comment prendre son temps, j'explique comment ne pas prendre de drogue, parce que les drogues, surtout chez les gays, aujourd'hui, c'est un très très gros problème. Mm-hmm. Et surtout dans des pratiques extrêmes, justement, où t'as des mecs qui n'ont pas confiance en eux et qui pensent que prendre des drogues va les aider à s'élargir ou à aller plus vite. C'est la pire des choses à faire. C'est la pire des choses à faire.
On va refaire le parallèle avec la muscu. Hein. C'est comme ceux qui vont prendre je ne sais pas exactement les molécules, mais en tout cas qui vont les aider et qui vont griller les étapes de préparation, d'entraînement, qui après, il y a des gros risques physiques et puis même mentaux, parce que je pense que la préparation, certes physique dont tu parles, elle est longue. Elle prend son temps, mais c'est aussi parce que intellectuellement, psychologiquement, il y a aussi ce travail à faire. Il faut faire confiance aussi à son corps. Si ça prend du temps, c'est parce que t'as aussi, je pense, besoin d'une adaptation aussi toi intellectuelle à chaque fois sur chaque étape que tu franchis. Donc passer de sodomie avec un phallus à tout de suite un fist, je suis pas sûre
que
ton esprit imprègne ça.
Clairement pas. Mais justement, je pourrais en parler des heures, mais la beauté de la chose, c'est pas l'objectif, en fait. C'est pas de se faire fister en soi. C'est d'explorer son corps, de découvrir ce qu'on aime. N'importe quel mec ou femme d'ailleurs hein, qui se fait fister va pas ressentir exactement les mêmes choses aux mêmes endroits. Mm-hmm. Donc justement, le but, c'est de s'explorer, c'est de découvrir son corps, et on va peut-être en chemin découvrir d'autres choses qu'on ne connaissait pas ou auxquelles on n'avait pas pensé. C'est là la beauté du truc, quoi. C'est pas l'arrivée, c'est le chemin qui est beau, quoi.
Ouais, je comprends.
Il y a parfois des sessions de fist où tu te frustres, etc. C'est parce que tu penses trop à la... Il y a des mecs où ça m'arrive aussi, tu penses trop à la compétition, tu veux arriver à faire ça, tu veux arriver à... surtout dans le porno d'ailleurs, parce que tu veux visuellement, il y a un truc un peu impressionnant. Et du coup, ça te rentre un peu dans la tête et tu perds un peu le lâcher prise, en fait. Tu veux être dans le contrôle et c'est là que ça va pas. Non, le but, c'est de prendre du plaisir et... quelle que soit la méthode, quel que soit le déroulement du truc, à partir du moment où tu es consentant et la personne qui est avec toi est consentante et où tout le monde s'amuse, quoi.
Ouais,
donc, voilà, j'espère que mon porno peut faire ce genre de... Et enfin, du moins, j'essaie d'évoquer ça dans mon porno, de montrer ça, le déroulement, le processus du truc.
C'est très philosophique finalement. On pourrait résumer à juste un fist, c'est-à-dire à un poing, une main, en tout cas voilà, va dans le très fond de toi. Ouais. Et finalement, c'est excessivement philosophique tout ça.
Mais c'est hyper sensuel, c'est un truc très 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 intime et ouais, tu peux atteindre des états. Ouais, tu décolles quoi, tu décolles et. Donc philosophique, je sais pas, mais il y a clairement un. Il y a un effet psychologique, parfois de détente, d'euphorie, qui est assez extraordinaire, quoi. Donc,
on sent en tout cas qu'il y a un éveil, il y a un vrai éveil qui se... ouais. Avec cette pratique-là. Et enfin, en tout cas, dans les recherches que j'ai pu faire pour préparer notre entretien, il y a des gens qui disent, bon, après, effectivement, c'était des gens qui aiment ça, hein, donc j'avais pas l'écho négatif, mais beaucoup disaient qu'il y avait un avant, un après de leur sexualité une fois qu'ils avaient essayé cette pratique, qu'il y avait une forme d'éveil, de transe, certains tutoyaient Dieu, enfin il y avait vraiment des...
Ouais, non mais il y a vraiment de ça, je peux comprendre, ouais, et j'essaie pas de convaincre qui que ce soit, bien parce sûr. Que c'est pas pour tout le monde, clairement pas.
Comme tout, hein, chaque pratique, enfin voilà, a ses adeptes, et il y a des gens qui n'aiment pas, il y a pas de problème avec ça.
Ouais, voilà. Moi, il y a des trucs dans l'ESM ou dans d'autres pratiques que je n'aime pas, qui ne sont pas faites pour moi. Mmh. Mais justement, c'est si je peux convaincre quelqu'un d'explorer son propre corps, ses envies, c'est tout ce qui importe en fait. Mmh. Ou celle de son partenaire ou de sa partenaire, quoi. C'est quelle que soit la pratique, quelles que soient les envies, il faut juste s'explorer, il faut juste s'amuser. Et lâcher prise.
Super. Alors Axel, quel serait le mot de la fin, puisqu'on arrive à la toute fin, ça y est, notre entretien?
Moi, je pense que je vais répéter ce que j'ai dit juste avant, mais lâcher prise, c'est... faut essayer de... Je pense qu'on peut apporter du bonheur un peu partout si on arrive à trouver justement de la joie en nous avec nos pratiques, avec notre sexualité. Ouais, j'ai du mal à le formuler, mais...
En tout cas, c'était...
C'est ça, c'est le partage, en fait. C'est vraiment du partage. Donc, faut partager.
Ok. Donc,
voilà,
bah, merci je pense. Merci beaucoup infiniment, Axel. Merci pour ta disponibilité.
Merci à toi.
Ton temps. Et c'était vraiment un plaisir d'échanger. Et je remercie Thomas, qui se reconnaîtra, de nous avoir mis en contact. Merci, Axel.
Ouais. Merci à lui. Merci à toi.
Merci pour votre écoute et merci encore à Axel d'avoir pris le temps de se livrer avec autant de transparence, d'honnêteté, de sincérité. On a passé vraiment, lui et moi, je pense, un très bon moment à échanger à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Merci pour votre fidélité, votre écoute. N'hésitez pas à venir en discuter sur les réseaux sociaux. C'était un épisode un petit peu à part avec une sexualité qui est peu commune, mais je trouvais ça intéressant de partager cela avec vous, la vision d'une sexualité heureuse, épanouie et en accord avec soi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de On the Verge.